J'ai quatre questions, je ne sais pas si je peux les poser d'un coup.
Vas-y, pose d'un coup et bon. Puis il répondra, il choisira.
Vous avez évoqué les relations proches entre didactique professionnelle et didactique des mathématiques à propos de Vergniaud, bien sûr, et de Brousseau. Je me demandais s'il y avait aussi des passerelles ou des travaux en relation avec ce que développait Chevallard.
Première question.
Deuxième question, sur la méthodologie, comment analyser, sur les, vous appelez les démarches, comment analyser le travail? Vous avez dit que là, bon, il n'y avait pas vraiment de démarche spécifique, il y avait une variété de démarches. Est-ce que c'est un constat? Est-ce qu'il y a un programme de travail pour essayer de dégager des démarches communes qui s'enrichissent des démarches ou des méthodes existantes? Troisièmement, sur les aspects collectifs dans la formation. C'est-à-dire, on parle d'apprendre dans l'action, mais qu'est-ce qu'on apprend dans l'interaction? Et puis, dernièrement, et c'est une question qui me paraît pratiquement importante, parce que dans les projets de formation des enseignants, on parle beaucoup de compagnonnage. Est-ce qu'il y a des travaux dans le domaine de la didactique professionnelle sur la formation par le compagnonnage, par l'accompagnement dans l'entreprise?
Vas-y, tu peux répondre, voilà, Philippe.
Je vais peut-être le prendre à l'envers, commencer par la dernière.
La dernière.
Alors, compagnonnage, oui, parce que, oui, parce que c'est une forme d'organisation du travail très répandue, donc de développement des compétences très répandue. Beaucoup sous une forme un peu particulière qui est le tutorat. Alors, il y a notamment, je ne sais pas si c'est des références qui peuvent vous intéresser, et puis Patrick Cunegel, qui est un disciple de Pierre Pastré, qui a fait une thèse tout à fait intéressante sur l'accompagnement des novices par les compagnons dans la mécanique automobile. Alors, ça vous est là. Peut-être que ça vous éloigne un peu de vos préoccupations professionnelles, mais les mécanismes Cunegel, K-U-N-E-G-E-L. Alors, il y a une thèse, il y a un article dans Éducation Permanente, et l'idée de ce... Bien sûr, c'est la mécanique automobile, donc c'est restreint. Le modèle de Patrick Cunegel, qui est intéressant, je crois, c'est d'essayer de montrer comment se tissent, s'articulent, se combinent les exigences. Alors, les exigences de production et les exigences d'apprentissage, et notamment par une analyse des interactions. Alors, sa méthodologie, c'est un enregistrement des interactions verbales, notamment des prescriptions et des proscriptions. Et il montre que dans cette dynamique-là, fais ci, fais ça, ne fais pas ça, viens avec moi, on va faire ça, tiens, viens, je vais faire ça, tu vas voir. Enfin, il y a tout un ensemble de registres d'intervention. Il montre comment on peut construire déjà une première lecture de la dynamique de compagnonnage. Mais il fait mieux. Enfin, je trouve que, du point de vue de ce qu'on avait, il fait mieux. C'est-à-dire qu'il va ensuite essayer de comprendre comment cela évolue dans le temps. Alors, c'est un des intérêts de son travail, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé simplement observer des tuteurs et des apprentis une journée ou une semaine, etc., etc. Il les a vus dans la durée de l'apprentissage. Et donc, il a montré quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est comment l'intervention du compagnon évolue, se transforme, en fonction du diagnostic qu'il porte sur les capacités d'apprentissage des apprentis. Il en a tiré un modèle. Alors, je ne sais pas si sa généralité est grande, mais il en a tiré un modèle. Il l'explique très bien dans sa thèse. Et si d'aventure vous êtes intéressé, il vient à Lyon au mois de janvier. Nous l'avons invité, alors à Lyon 2 pour le coup, mais
Petite question, dans la littérature que j'ai lue, où on emploie le mot compagnonnage dans le champ de la didactique, de la formation, je dirais plus largement des adultes, j'ai jamais vu utiliser le mot compagnonnage pour désigner une relation entre un chevronné et un novice qui ne serait pas sur le même lieu de travail. Par exemple, je le dis parce que aujourd'hui on voit apparaître dans les référentiels de l'éducation nationale l'idée qu'un instituteur, un professeur d'école pourrait être en situation de compagnonnage d'un débutant, alors qu'ils sont pas dans la même classe, qu'ils n'ont pas d'heure commune et que simplement le tuteur peut faire du débriefing ou avant ou après la classe, mais il n'est jamais en position de voir il me semble que c'est un usage du mot compagnonnage qui pour le moment n'est pas, ne fonctionne pas dans la didactique professionnelle. On est d'accord sur ce point. Bon, excuse-moi, alors, c'est cette interruption.
Deuxième point, la dimension des collectifs dans la formation. Je disais que la didactique professionnelle avait finalement peu produit de travaux sur les situations de formation hors la simulation. Effectivement, je crois qu'il y a peu de choses sur la dimension des collectifs. Alors, Patrick Mayen a essayé d'explorer un peu ça sous la dynamique du conflit cognitif, enfin, un peu dans certains. Alors, on demande deux articles d'éducation permanente. J'ai pas les références. Là, j'ai même pas le titre. C'est sur des expériences dans le BTP. Voilà. Il me semble que ce qui est caractéristique de la première vague de travaux de la didactique professionnelle, ça a été analyser le travail. Ce qu'on trouve très massivement dans les publications, c'est nous sommes sur un problème de formation, nous allons analyser le travail, voilà ce que ça donne, voilà comment on peut éventuellement le transposer pour construire la situation. Sur, j'allais dire, la dramatique de la situation de formation, peu de choses. Sur l'interaction en situation de formation, donc à part Mayen, peu de choses. En revanche, Mayen, s'il s'était intéressé à ça dans la situation de formation, c'est parce que c'est une de ses entrées dans la didactique professionnelle. Lui, il s'est intéressé, et donc sur l'analyse des interactions en situation de travail, c'est-à-dire sur la composante cognitive que l'on peut reconstruire pour la gestion des interactions, il a beaucoup publié. Des travaux sur les relations de service, des travaux sur les réceptionnaires, sur leur enseignement. Et donc là, c'est pas la situation de formation, mais ça montre quelque chose que je n'avais pas indiqué dans mon propos, c'est que la didactique professionnelle n'est pas une didactique des métiers industriels, bien que beaucoup d'études aient eu lieu dans ce domaine-là. Elle couvre l'ensemble des champs professionnels, y compris les relèves. Celui où le cœur du métier, c'est la gestion de l'interaction. Alors sur les méthodes, est-ce qu'il y a un programme d'élaboration ou d'unification des méthodes ou d'élaboration d'une méthode de référence? Je n'ai pas l'impression, ou je ne suis pas informé, ce qui serait fort possible, mais je n'ai pas l'impression où je suis, parce que je crois que le moteur de développement des recherches n'est pas là. Je crois que la didactique s'accommode très bien d'endosser pour le coup les avis des autres approches méthodologiques et de la spécifier sur ce qui est son objet, l'organisation cognitive. C'est-à-dire qu'il y a des collègues, par exemple, il y a un travail de Pierre Parage sur les contrôleurs du travail, il fait de l'observation. De toute façon, on ne lui permet pas de filmer, on ne l'autorise pas à filmer, on ne l'autorise pas à photographier, on ne l'autorise pas à enregistrer. Le contrôleur du travail, c'est l'inspecteur du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés dans les missions de contrôle. C'est quelque chose de sensible, de délicat, donc il n'a pas ses autorisations. Il y va, papier-crayon, il fait son observation, il construit ensuite un entretien de confrontation, on pourrait appeler, à ce qui est son observation, il organise un dialogue entre les deux, il produit des résultats qui permettent de mettre en évidence ce que l'opérateur a fait dans la situation, ce qu'il peut expliciter de ce qu'il a mobilisé, éventuellement rectifier l'observation si l'observateur a mal compris. Et c'est une méthode assez légère et fort utilisée. Il y a des gens qui font de l'autoconfrontation croisée, typique à la Yves Clos. Il y a des gens qui font de l'explicitation, beaucoup. J'aurais tendance à penser, pour ma part, que c'est une explicitation qui n'est pas forcément orthodoxe à la Vermeersch, mais qui s'inspire de certains principes. Il y a des gens qui font beaucoup d'entretiens, voilà, en les couplant à une analyse des traces, c'est-à-dire en prélevant dans la situation de travail des éléments qui restent, des brouillons, des rejets, des essais, des choses comme ça. Alors, si j'avais, alors ce n'est pas, vous voyez, un programme commun, mais si j'avais, de mon point de vue, une motion de synthèse à proposer, il me semble qu'il y a quand même des lignes fortes. Le travail tel qu'il se fait par ceux qui le font. Première chose, dans la méthodo, il y a toujours ça. C'est-à-dire, pas les documents qui disent le travail, pas que, pas non plus ceux qui sont censés pouvoir dire ce que le travail est. Les hiérarchiques, les experts, les ceci, les cela. Le travail tel qu'il se fait par ceux qui le font. Deuxième chose, il y a toujours construire, alors, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, une indexation avec l'effectivité du travail. C'est-à-dire quelque chose qui va permettre de créer un lien avec le contexte, on pourrait dire la dramaturgie, le déroulement de l'activité. Ça peut être des photos, ça peut être des croquis, ça peut être des notes, ça peut être des choses qu'on prélève, mais avoir toujours quelque chose qui va permettre de faire lien. Alors, sur ces quelque chose-là, que ce soit des enregistrements, que ce soit des documents, que ce soit des notes, je pense que leur fonction est double. Ils ont une fonction, j'allais dire, rétrospective. Ils viennent du passé, du moment où ça s'est passé, et on le ramène dans la situation présente pour comprendre le travail. Et puis, ils ont une fonction d'intersubjectivité entre le professionnel qui a fait le travail et celui, formateur ou chercheur, comme vous voulez, qui essaye de le comprendre, il y a quelque chose qui est tiers. Or ça, c'est très important, parce que entre deux points de vue sur le travail, il est souvent bien intéressant, et surtout producteur d'effets de prise de conscience, de pouvoir revenir aux choses qui ne sont pas le point de vue que l'on en a, mais ce qui en est la trace effective ou la manifestation effective. On le voit, on voit tout l'intérêt de ça dans le travail sur les autoconfrontations. On voit tout l'intérêt de ça aussi dans tous les cas où les observations donnent un élément que celui qui a fait le travail n'a pas perçu, et que donc ça donne un débat pour essayer de comprendre ce qu'il en est de cette chose qui n'a pas été perçue, problématique de la prise de conscience, ou de cette chose qui n'a pas été comprise, problématique de l'extériorité de celui qui est dans la position de comprendre le travail d'autrui.
Chevalard.
Une minute. Ça tombe bien, je vais jouer en touche. Qu'est-ce que vous entendez exactement par ça? Et puis après, je vais voir si je peux répondre à la question. Donc c'est bien ce que je pensais, la question est délicate. Elle me confronte à ma zone de développement proximal ou potentiel, comme vous voulez. Et donc je vais bien botter en touche. D'une part, je ne suis, j'allais dire, pas assez familier de ces questions de didactique des mathématiques pour pouvoir faire une réponse pertinente. D'autre part, j'ai quand même un joker dans ma manche. Pierre Pastré, venant ici dans quelques semaines, je pense qu'on pourrait lui poser directement la question.
De toute façon, on va donner la parole à Paula Busuttil à midi. Pour ce qu'on a déjà pris du retard. Donc, il reste encore 4 minutes pour une autre question. Alors, moi, j'en ai une, si personne n'en lit. Peut-être en 4 minutes, tu vas aussi botter en touche. C'est que je me rends compte que moi, le concept, entre guillemets, je dirais la notion que j'ai beaucoup utilisée à une époque où je ne lisais pas la didactique professionnelle, parce qu'elle n'était pas née, probablement, je me suis beaucoup servi du mot « culture professionnelle » pour parler de ce que je reconnais très bien du point de vue des contenus, sinon des catégorisations, du côté de ce que tu appelles le développement, pour éviter l'aspect rigidifiant de l'ingénierie didactique, et pour dire qu'il y a toujours quelque chose à comprendre qui n'est pas compris dans le travail. C'était une manière à la fois d'articuler la dimension identitaire subjective, mais aussi la dimension collective objectivable. Et c'est un mot qui n'apparaît pas, le mot culture, à l'intérieur des concepts d'éthique professionnelle. Est-ce que c'est parce qu'on n'en a pas besoin? Parce que c'est un synonyme flou? Voilà.
Alors, D'abord, c'est un mot qui est très présent chez quelqu'un qui est très cité, c'est, évidemment, le nom m'échappe, Brunner.
Ah oui, chez Brunner, oui.
Chez Brunner, beaucoup.
Mais Brunner, il ne fait pas de la didactique.
Oui, non, non, et Brunner, beaucoup cité par la didactique professionnelle. Alors, pas forcément là-dessus, mais beaucoup cité par pour toute cette idée qu'il y a un environnement organisé, social, qui contient un certain nombre de choses que l'apprenant va pouvoir s'approprier. Alors, culture, non, fort peu. Pourquoi ? Parce que, je dirais, dans mon premier point, parce qu'il me semble que la didactique professionnelle a peu exploré la dimension métier, qu'elle a beaucoup exploré la dimension travail et peu exploré la dimension métier. Le métier comme un ensemble d'éléments qui se construisent, qu'on se transmet, qu'on transforme, le métier au sens où l'utilise Yves Clos ces dernières années. La didactique professionnelle, parce qu'elle elle engage à aller dans l'instant de l'action, a, j'allais dire, peu travaillé ça, parce qu'elle essaye aussi, elle a une perspective cognitiviste, et elle essaye de montrer quelle est l'organisation conceptuelle, et il me semble que c'est vrai qu'elle n'en a pas forcément beaucoup besoin. Ensuite, la deuxième chose, il me semble que la culture en tant qu'identité, donc ça c'est la culture en tant que patrimoine, la culture en tant qu'identité, je dirais, c'est une question récente. Alors, c'est une question récente qu'on voit émerger par deux choses. Par la rencontre de la didactique professionnelle et de Claude Dubas, qui, vous le savez, vient d'un tout autre monde, qui a beaucoup travaillé, sociologue, qui a beaucoup travaillé ces dernières années sur la question des identités. Stéphanie Guibert-Sauré, la jeune étudiante dont je vous parlais, fait sa thèse de didactique professionnelle, à thématique didactique professionnelle. Dans son jury, elle invite Claude Dubard parce que ce qui lui paraît central, c'est les questions d'identité. Je crois que c'est là que la jonction se fait. Et puis, je crois que Pierre Pastré en propose, pas sous le terme de culture, mais en propose une version personnelle en termes de genèse. Plutôt que penser culture, il va penser développement. L'identité, c'est quelque chose qui se construit. Et dans un texte de 2005, il va dire le développement, c'est la dynamique de trois genèses. Les genèses conceptuelles, pour élaborer des concepts qui permettent de penser et d'analyser les situations et d'y agir avec pertinence et efficacité. Les genèses instrumentales, et là il reprend du Rabardel, pour pouvoir articuler la relation entre les sujets et les artefacts, et les genèses identitaires, pour pouvoir développer une affirmation de soi au travers des actes que l'on effectue, que l'on a effectué ou que l'on effectuera. Et là, la référence est à Ricoeur. Voilà, donc c'est vrai, effectivement, peu culture, moi je pense peu métier, parce que beaucoup travail, alors que d'autres le pensent en relation, l'a peu exploré. Est-ce à dire qu'il faut désespérer ? Sans doute pas. Pourquoi ? Parce que dans la perspective didactique, il y a toujours l'idée que l'apprentissage qui est à faire, c'est aussi un apprentissage du patrimoine. Simplement, je crois que la didactique professionnelle le voit beaucoup, l'a vu beaucoup, comme étant la démarche du sujet pour se l'approprier à travers les situations.